Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec les quatre drôles de dames, Julien Laurence, Paul Breitner, Daniel Emmanoucia et Edgar Grolot. On est ensemble jusqu'à 22h avant une deuxième heure, un spécial Coupe du Monde. Et puis on a pas eu le temps de le faire la semaine dernière. Vos 11 de vos 4 championnats, ils sont attendus. On les mettra également sur les réseaux sociaux. Alors, Mercato qui a commencé de manière spectaculaire il y a quelques jours seulement, avec l'annonce de l'arrivée d'Anthony Gordon de Newcastle au FC Barcelone. 70 millions d'euros plus 10 de bonus. Première secousse du Mercato estival avant même le début de l'été. Tiens, Edgar, question que je te pose, hein. Comment on a réagi à Barcelone? Est-ce qu'on se dit que c'était la priorité ou pas du tout de lâcher 80 millions d'euros pour Anthony Gordon? Sachant, précision importante quand même, que ça y est, hein, il n'y a plus de restrictions pour recruter côté barcelonais.
Oui, notamment que le plafond salarial, par exemple, pour la prochaine saison, a nettement augmenté. 81 millions d'euros de plus pour tout l'effectif, que Lewandowski part. Donc ça aussi, ça t'enlève un poids au niveau de la masse salariale. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Maintenant, est-ce que c'était la priorité numéro 1? Je pense pas. Je pense que la priorité numéro 1, c'est évidemment de remplacer Robert Lewandowski avec un vrai numéro 9. Maintenant, Gordon, qui peut aussi, je parle sous le contrôle de Julien, évidemment, mais jouer à plusieurs postes en attaque et notamment devant, mais qui est avant tout plutôt côté gauche. Je pense que c'est une recrue qui a du sens. Forcément, même si les restrictions de recrutement pour le Barça sont plus légères, on va dire, que sur les dernières années, ça veut pas dire qu'ils ont un budget illimité. Ils doivent cibler des profils et choisir. Et je pense que s'ils choisissent Gordon, c'est aussi qu'il y a une vraie volonté d'Hansi Flick. Et je pense que s'il y a une vraie volonté d'Hansi Flick, c'est parce que Gordon aussi, c'est quelqu'un qui peut leur apporter dans les efforts défensifs, parce que Hansi Flick a répété toute la saison que les problèmes défensifs qu'avait parfois le Barça venaient aussi des attaquants et venaient aussi des moments où le pressing était moins bien organisé, était moins bien fait et moins bien suivi par les différents joueurs, moins harmonieux. Et je pense que ça veut dire qu'il compte aussi sur cet aspect-là du jeu d'Anthony Gordon, c'est-à-dire les efforts défensifs. Et donc je pense qu'ils valorisent beaucoup ce côté-là chez Gordon. Et après, c'est aussi qu'ils ont dû avoir une opportunité de marché où ils ont vu qu'il y avait cette recrue qui était faisable, qui est, je pense, au-dessus d'un joueur comme Marcus Rashford. Ça s'est fait assez vite, ça a surpris par la vitesse du transfert. Maintenant, c'est quelqu'un évidemment qui peut apporter à cette équipe. Et on a vu aussi tout au long de la saison la volonté d'Hansi Flick d'avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, d'avoir des joueurs aussi qui sortent de là où ils sont alignés dans le 11 sur le papier, comme Lamine Yamal, comme Rafinha, qu'on a vu souvent entrer aussi dans l'axe. Et je pense que cette recrue là va aussi en ce sens, voilà, parce qu'elle va donner encore plus de possibilités à Hansi Flick.
Si Gordon arrive, ça veut dire que Rashford ne sera pas conservé. Il appartient à Manchester United, je rappelle.
En tout cas, en termes de profil, ça me paraît compliqué, très compliqué. Quand même. Je pense que c'est clairement le remplaçant, et un remplaçant plus. Hein. C'est au-dessus sur le papier aujourd'hui que Marcus Rashford, ou en tout cas c'est plus bling bling, et c'est sa valeur marchande est largement supérieure à Marcus Rashford.
Ouais, il n'a pas très envie de retourner en première ligue, j'ai l'impression, Julien, Marcus Rashford. Il aurait surtout voulu rester à Barcelone. Est-ce qu'il va revenir à United ou être vendu? Qu'est-ce qu'on dit en Angleterre concernant son avenir?
C'est une bonne question. Alors lui, oui, il aurait voulu rester. Je crois qu'il est d'ailleurs déçu que ça se soit pas fait. Parce que finalement, même sans faire une saison extraordinaire, c'est plutôt une bonne saison, même dans un rôle un peu de joker de luxe ou de remplaçant de luxe, on va dire, entre guillemets. Après, le problème de Marcus Rashford, c'est qu'il gagne 350 000 euros par semaine. Donc à un moment, il n'y a pas non plus beaucoup de clubs dans le monde qui peuvent se permettre de payer quelqu'un encore sous contrat 350 000 euros par semaine. Donc à un moment, c'est compliqué pour lui aussi, surtout s'il veut pas rester à Manchester United, parce que je pense que dans le cas de 3-1 de Carrick, il a peut-être plus de place à gauche qu'un Matheus Cunha, par exemple, qui est pas du tout un joueur de côté, même s'il peut le faire, et comme c'est un bon joueur, bah ça passe. Mais je sais pas si Carrick veut le garder même, et encore moins à ce prix-là. Donc on verra, mais ça peut se compliquer un peu pour Marcus Rashford, ou alors il peut être réaccueilli bras ouverts par Carrick, par exemple, et Manchester United, et pourquoi pas dans un sens avoir eu sa carrière se relancer à Barcelone et repartir, on va dire, sur des bases plus fraîches, on va dire, plus je sais pas comment on dit en français, mais tu vois, un fresh start, quoi.
Un nouveau départ.
Voilà,
quoi.
Exactement.
Bon, voilà pour Gordon
et
également.
Mais juste pour finir sur Gordon,
il va réussir à Barcelone ou pas?
Alors moi je sais pas, c'est 3 buts, c'est 6 buts en championnat cette saison, dont 3 sur penalty. Hein. Donc c'est à dire que j'ai plein de défenseurs chez moi qui ont marqué plus que Anthony Gordon, qui a joué 26 matchs de championnat. Après, là où Elgar a tout à fait raison, c'est sur le pressing, il est monstrueux. Il est monstrueux. D'ailleurs, il a parfois même pris des cartons rouges parce qu'il pressait tellement, il taclait dans tous les sens, il courait derrière le ballon autant qu'il pouvait. Donc ça, à ce niveau-là, ils seront pas déçus. C'était son rêve absolu. D'ailleurs, il a parlé dans un espagnol plutôt bon. J'ai trouvé Elgar lors de sa présentation. Ça, c'est très bien.
Apprécié qu'il fasse l'effort.
Ouais, j'imagine, ouais. Et puis, je pense qu'il était vraiment, tu sais, il était vraiment honnête en disant que c'était son rêve depuis toujours, un peu comme Kylian d'ailleurs. Donc il a appris l'espagnol dans l'optique d'un jour, il espérait jouer au Barça et en Espagne, quoi. Donc bravo à lui, mais après il a quand même beaucoup de travail à faire devant le but, notamment parce que la saison dernière c'était quand même très laborieux.
Bon, voilà pour. Oui, quelqu'un voulait réagir?
Ouais, enfin, je crois à ma connaissance, mais il faudrait vérifier si nos auditeurs sont des spécialistes de ça. Le dernier anglais à part Rashford, c'était pas Gary Lineker à Barcelone, donc ça commence à dater. Donc le profil de la nationalité, moi, me perturbe toujours un peu parce qu'il y a des ADN dans les clubs quand même. Et à ma connaissance, alors à l'époque en plus c'était Venable, je crois, le coach de Barcelone.
Terry Venable.
Il y avait quand même une filière et c'est pas tout à
qu'est-ce
fait.
Qu'est-ce qui te perturbe, Polo? Qu'est-ce qui te perturbe? Pardon? Finalement? Qu'est-ce qui te perturbe à l'heure de la mondialisation?
Ben, même les Anglais, partent. C'est pour ça.
C'est quoi?
Non, c'est que je suis pas persuadé qu'il y a des nationalités qui réussissent partout.
Ah bon?
Je suis pas persuadé qu'on réussisse à Barcelone en venant de première ligue, par exemple, par rapport au style de jeu.
Très intéressant,
etc.
Ça. Ouais, rappelez-vous, Michael Owen au Real Madrid, ouais. Même Gareth Bale, tout ça, c'est pas toujours garanti.
Tu considères que David Beckham a plutôt réussi au Real, plutôt réussi quand même, non?
Ouais, mais on a plein de contre-exemples aussi pour aller dans le sens de ce que dit Paul.
Ouais.
Surtout chez les Anglais qui n'aiment pas partir de leur île de toute façon. Donc.
Ouais. Non, j'ai l'impression, Julien, quand même, qu'il y a une tendance sur les dernières années où on voit quand même de plus en plus de joueurs anglais. J'ai eu la sensation, en tout cas, hein, de voir plus de joueurs anglais s'exporter. Alors, c'est pas aussi massif, par exemple, évidemment. C'est très loin des standards français ou même d'autres pays. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voyait déjà encore moins il y a 10 ans, peut-être.
Ouais, mais après, ils ont enfin compris que ça, c'était très bénéfique d'aller à l'étranger, de connaître d'autres choses, d'autres cultures de foot, d'autres pays de foot. Parce que pour trop longtemps, ils sont restés auto-centrés sur leur première ligue à eux. Donc, c'est enfin la bonne chose. Et ça a démarré d'ailleurs par les jeunes joueurs qui sont partis un peu partout à droite, à gauche, parce qu'ils considéraient qu'ils avaient moins de possibilités de jouer en première ligue dans les grands clubs anglais. Et ça part de là. Et puis après, d'autres ont suivi.
Ou alors des très gros clubs type le Real, hein, qui est arrivé à shipper des stars au club anglais. Bah, McManaman a plutôt réussi au Real, par exemple. Steve McManaman, c'était plutôt correct également. Après, j'ai pas pléthore d'exemples. Hein. Si on parle de l'axe anglo-espagnol, en Allemagne évidemment, il y a un exemple, mais ça a réussi plutôt. C'est Harry Kane, mon cher Polo. Hein. On a eu Jude Bellingham aussi plutôt.
Peu anglais, comme dit Daniel.
Bien sûr, Bellingham.
Jude Bellingham.
Bon, Alexander Arnold, c'est pas encore ça pour l'instant.
Toujours pas, non, pour l'instant.
Mais tu vois, Michael Owen, par exemple, je sais qu'on n'a pas trop le temps, là.
Vas-y.
C'est fascinant. Non, mais c'est fascinant parce que il s'est jamais fait à la vie madrilène. Alors, faudra m'expliquer.
Oui, alors, c'est ça, la raison, peut-être.
On a souvent eu des débats avec lui, puisqu'on travaillait ensemble à la télévision anglaise. On lui disait, mais comment tu ne peux pas t'adapter à la vie madrilène? Enfin, c'est impossible, tu vois, même pour un anglais. Comment tu peux pas aimer une ville où t'as quand même beaucoup plus de soleil que chez toi, où la nourriture est bien meilleure que chez toi? Bon, la musique, si t'as pas envie de l'écouter, bah, mets tes musiques anglaises chez toi, mais c'est, enfin, voilà, c'était, et pourtant, il a vécu à l'hôtel. Tout son temps au club, il a jamais vécu dans une maison. C'est pour vous dire à quel point le gars, il se sentait vraiment pas bien. Au Real Madrid, t'es ballon d'or. Tu joues au Real Madrid, t'habites à Madrid, t'as un salaire monstrueux, et pourtant, t'arrives jamais à t'adapter à cette vie-là. Moi, je comprends pas, quoi. Mais après, bon, des fois, il fait des trucs un peu bizarres.
Après, oui, c'est vrai, exemple.
Et par exemple, il aime pas le cinéma, il regarde jamais des films.
Ah oui, d'accord, intéressant, ce thème-là. D'accord, ok. Pourquoi
il
pas,
a vu 5 films dans sa vie. Donc, à un moment.
Mais qu'est-ce qu'il anime, ce garçon, Michael Owen, là? C'est.
Les chevaux. Il adore les chevaux. D'accord. Non, mais il est très sympa, hein.
Ah oui,
il
mais beaucoup je
avec
pas. Lui.
Non, mais c'est vrai que 5 films et c'est Kurosawa, ça va, quoi.
C'est très sélectif, ouais.
C'est toujours pareil.
C'est un tu vois.
D'accord, maman, j'ai raté l'avion le 1, le 2, quoi. J'ai re-raté l'avion. Et puis après.
Et encore, ouais.
Oui, d'accord.
Mais non, mais tu vois, c'est fascinant. Alors, c'est pas sa personnalité, en fait. Il aurait jamais dû bouger de l'Angleterre. Lui, il était pas fait comme ça.
C'est un casanier, quoi. Voilà, beaucoup. C'est ça.
McManaman, par exemple, aujourd'hui, il habite en Espagne. Il adore l'Espagne. Il est plus espagnol que Scouser, même. Il adore ça. Et puis, tu le vois, on était encore ensemble à la finale, puisqu'on, encore une fois, on travaillait pour la même télé aussi. Il était habillé, mais genre, il était à Madrid, quoi. C'est fascinant à voir comment lui, en revanche, l'inverse d'Owen, s'est fondu complètement dans la vie. Et à épouser la vie espagnole et madrilène encore plus, tu vois.
Intéressant. Très bon débat mené à prolonger. Bien sûr, si vous avez des idées pendant la pub hein, de joueurs anglais qui ont vraiment réussi à l'étranger, n'hésitez pas à nous les faire partager. Avant qu'on continue sur le mercato, qu'on parle de Vuskovic avec Polo, de Ibrahima Konaté avec Julien dans un instant. Deuxième minute de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique, s'il vous plaît.
Gloria, la gloire du duo Los Dioses. Ils viennent de Malaga. Sur la pochette de leur nouvel album, il y a un des deux qui porte le maillot de Malaga. Dans la chanson qu'on écoute, ils parlent de Malaga. Et donc ça veut dire qu'ils vont stresser. Ils vont stresser dans les prochains jours, puisque Malaga va jouer les playoffs pour monter en Liga. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces playoffs? Déjà le format, 4 équipes, demi-finale aller-retour, finale aller-retour aussi. Et parmi ces équipes, donc, celle avec l'histoire récente la plus importante, c'est Malaga qui a terminé 4e de saison régulière, quart de finaliste de Ligue des Champions en 2013 avec Toulalan, Isco, Montréal, Joaquin, on se souvient de cette génération-là. Et depuis, plein de problèmes financiers qui ont réduit les ambitions du club. Ils sont descendus en 2018, puis passés par la 3e division en 2023-2024. Et dans les prochains jours, ils peuvent retrouver leur vraie place, c'est-à-dire la Liga, puisqu'au classement historique du foot espagnol, c'est le 20e club du pays. Ils vont jouer contre le 21e club historique du pays, Las Palmas, club des îles Canaries, qui essaie de remonter tout de suite. Vous connaissez leur meilleur buteur, hein, vous le connaissez tous, c'est Ressé, ancien joueur du Real et du PSG. J'aurais pu mettre l'une de ses chansons aussi, mais je voulais vous épargner ça. Et puis l'autre demi-finale, ce sera entre le 3e et le 6e, c'est Almeria contre le CD Castellón. Les Andalous d'Almeria arrivent peut-être en tant que favoris, puisqu'ils ont déjà ils terminent 3e, ils ont le meilleur buteur du championnat, Sergio Arribas, 25 buts. Ils ont le soutien en plus de Cristiano Ronaldo qui détient 25% du club. Et en face, ils vont retrouver l'équipe qu'on attendait le moins à ce niveau-là en début de saison, le CD Castellón. C'est un club de la région de Valence, collé à Villarreal, qui n'a plus disputé la Liga depuis 1991. Son effectif vaut deux fois moins que celui d'Almeria. C'est que le 14e effectif de Segunda en termes de valeur marchande. Donc c'est déjà une saison réussie pour eux. Voilà, rendez-vous samedi pour le début des playoffs.
Malaga, l'ancien club de Jérémy Toulalan, bien sûr, qui ne doit pas nous écouter ce soir, puisque
il leur aura rendu visite il y a quelques mois. Il est toujours attaché au club.
Jérémy Toulalan, d'accord, ok.
Ouais.
Intéressant.
Bon, en tout cas, il était invité du club. Il a rendu visite. Il a serré la main de tous les joueurs dans le vestiaire, etc.